Pourquoi le jazz? C'est une impulsion. Un jour, on écoute du jazz ou on voit un orchestre. Et puis, on se dit, naturellement, on a envie d'être là-dedans. On sent qu'il y a quelque chose qui nous correspond. Ce qui est intéressant dans le métier, pour moi, c'est de dire, je me suis pas trompé. Je suis avec les bonnes personnes, au bon endroit, au bon moment. Ça, peu importe. Mais avec les bonnes personnes. Il faut aller chercher quand même le plaisir, quoi. Alors, une belle musique, c'est une musique qui me donne de l'émotion. Enfin, je veux dire que l'art, c'est fait pour créer de l'émotion. L'émotion crée du plaisir ou de l'interrogation. L'émotion s'adresse des fois aux jambes, au ventre ou à la tête. On peut être ému physiquement, on peut être ému spirituellement, ou les deux ensemble, etc. Le beau, c'est ce qui serait émouvant. C'est tout. Et tout peut être émouvant. C'est-à-dire que moi, l'émotion, je la ressens aussi bien chez Ligeti que chez Bach ou que chez Peter Boltzmann, quoi. L'émotion. Donc à ce moment-là, si je suis ému, alors ému, ça ne veut pas être, c'est pas la sensiblerie, c'est pas pleurer ou c'est ému, c'est d'avoir le sensible qui se met à vibrer, quoi. Une vibration physique ou mentale ou cérébrale. Quand ça s'est touché comme ça, le beau est là.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Clarinettiste et saxophoniste, le jazzman Louis Clavis vient de nous rappeler une règle que tous les amateurs de jazz ont déjà pu vérifier. Pour que la musique soit bonne, il faut que l'alchimie entre les joueurs le soit également. Et si un grain de sable se glisse dans ses rouages, inutile d'espérer décoller. D'ailleurs, observer depuis la salle de concert ce qui se passe sur scène permet de voir, mais réellement voir, ce fil à la fois fragile et fort qui relie les musiciens entre eux. Pas de place pour un ego envahissant. Pour que les vibrations circulent, les uns et les autres doivent s'écouter, se laisser de la place et apprendre à respirer ensemble. Alors durant ces moments de grâce, la magie s'installe et nous transporte. C'est de cette magie-là dont nous allons parler ce soir avec la trompettiste Erhel Besson, dont le deuxième album, enregistré avec son quartet, vient de sortir. Pour le réaliser, elle a sans peur créé son propre label, joyeusement nommé Papillon Jaune. Try, c'est son titre, a été conçu durant cette interminable année d'isolement forcé, alors que tous les concerts ont été annulés, et enregistré en août dernier au studio de La Buissonne, juste avant que celui-ci ne referme ses portes. Avec ses habituels complices Benjamin Mousset au clavier, Fabrice Moreau à la batterie et la voix aérienne d'Isabelle Sörling s'enroulant autour des volutes de sa trompette, les compositions d'Erhel Besson nous font voyager et respirer. De la magie, mais oui, c'est bien de cela qu'il s'agit. Bonsoir Erhel Besson.
Bonsoir Kathleen.
Ravie de vous recevoir parce que je vous le disais avant que le micro ne s'ouvre, ce disque, nous en avons tellement besoin en ce moment. Il nous fait voyager, rêver, il nous console, il nous déplace. C'est vraiment un bon disque de jazz. Alors c'est le deuxième que vous produisez, enfin vous le produisez celui-ci, mais c'est le deuxième album que vous réalisez avec votre quartet. Et celui-là, il revient de loin parce que vous étiez tous loin les uns des autres pendant que vous créiez ces musiques, ces compositions. J'imagine que vous retrouvez tout d'un coup, pendant le petit moment où ça a été possible, ça a été une belle aventure.
Ah, c'était fort et intense et je voudrais juste revenir sur l'introduction ce soir. Merci beaucoup. Oh là là, quelle introduction. Louis Clavis, c'est quelqu'un que j'admire énormément et qui me suit depuis quelques années. J'en suis même très émue de ce que je viens d'entendre. Donc, merci beaucoup pour cette introduction. Ça nous amène sur une espèce de plateau doré d'argent, de magie, de choses qui sont magnifiques. Oui, effectivement, lorsqu'on est rentré en studio en août dernier, on n'avait pas pu répéter la musique comme je l'avais imaginé, c'est-à-dire que je pensais le faire de manière un peu collégiale en mars, avril, mai, juin. Et ça, évidemment, ça n'a pas pu se faire. Et effectivement, comme vous le disiez, c'est la C'est la première fois que je suis productrice d'un album. Donc j'ai commencé à penser à la production en mars-avril. Et en avril, lorsque j'ai organisé et choisi la date d'août, on était très très loin en avril. On ne savait vraiment pas où on allait. C'est-à-dire qu'on était tellement confinés, on vivait quelque chose de tellement inédit. On ne savait pas dans le temps où ça allait nous mener. Que quand j'ai choisi ces dates-là, je me suis dit, mais est-ce qu'on va pouvoir sortir de Paris, aller enregistrer, faire ce qu'on sait faire? Et finalement, la chance... on a eu la bonne chance, il y a une belle étoile qui était là parmi nous et on a pu réaliser cet enregistrement en n'ayant pas répété autant qu'on le souhaitait, donc juste un petit peu. Donc la musique était très neuve, c'est-à-dire que il y a une partie des morceaux qu'on a enregistrés qui étaient très neuves. Il y en a d'autres qu'on avait un petit peu répété avant, même qu'on avait joué en concert, donc il y en a d'autres qu'on connaissait. Mais il y a une partie, et je pense que ça, il y a une sorte d'émulation, d'excitation, c'est très grisant en fait. C'est comme un peu comme quand on rentre sur scène, finalement, il y a quelque chose de très excitant. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens comme ça. Et c'est l'état d'esprit dans lequel on est entré en studio, on se dit, allons-y. Et c'est un petit peu le titre d'album, c'est Try, let's try it, allons-y, on y va. On était tellement heureux juste de se voir, de partager ces moments musicaux ensemble que advienne ce qu'il y aura. On verra bien ce qu'il y aura et voilà ce qu'il y a.
Et ben voilà, vous avez essayé et ça a formidablement marché. La preuve en musique tout de suite.
Every day, every day.
Hérel Besson, on écoute Try, justement, qui a donné son titre à cet album. Alors, je redis quand même les noms de votre groupe, parce que tout le monde entend la voix aérienne d'Isabelle Sorling, qui tape une pure merveille, qui s'enroule avec votre trompette. On ne sait plus qui chante et qui joue.
Donc c'est
et ça. Puis, il y a Benjamin Mousset au clavier et Fabrice Moreau à la batterie. Et on parlait tout à l'heure, après Louise Clavis, de ce qui se passe entre les musiciens. Au fond, c'est un groupe assez jeune, votre quartet. Vous l'avez créé en 2015, vous avez fait votre premier disque en 2016, tout de suite. Vous avez eu vous-même la victoire du jazz la même année, donc ça a été une année très intense. Mmh. Mais vous avez fait depuis pas mal de concerts. Mmh. On sent que vous vous êtes trouvés tous les quatre.
Bah écoutez, je suis heureuse de l'entendre effectivement sur scène et c'est ce qu'on ressent. C'est ce qu'on ressent. Après, j'ai mis du temps surtout à trouver Isabelle. Parce que Fabrice et Benjamin, lorsque je les avais rencontrés dans des orchestres précédemment, je savais que j'avais envie de... Quand j'ai rencontré Benjamin, que j'ai écouté jouer, je me suis dit...
Il avait joué d'ailleurs avec Louise Clavis.
Absolument, il joue souvent avec Louis, absolument. Oui, oui. Et je savais que j'avais envie de construire quelque chose avec lui pour toutes les qualités qu'il fait de lui un musicien, ses qualités d'ouverture, de... La richesse musicale, c'est vraiment quelqu'un de très érudit, très ouvert, toujours partant. Ce sont des qualités que j'aime beaucoup. Et Fabrice, on se connaissait aussi depuis quelques années auparavant. Et lui, au-delà d'être batteur, évidemment c'est un batteur, mais c'est presque un orchestrateur de l'instant. C'est-à-dire que il va vraiment magnifier une phrase mélodique où il amène tout vers le haut. Alors je fais des signes de mes mains que vous ne pouvez pas voir, mais oui, il a vraiment quelque chose de particulier au-delà du musicien et du batteur que c'est. Et c'est Isabelle, finalement, j'ai mis beaucoup de temps à chercher cette chanteuse que je voulais être vocaliste et instrumentiste.
Vous aviez pensé à Youssouna, que j'ai reçue, qui est une chanteuse absolument exceptionnelle.
Absolument.
Et effectivement, on voit bien pourquoi Isabelle Sorling vous a séduit, parce que la pureté de la voix, et puis surtout cette capacité de...
Cette aisance.
Voilà, passer du haut en bas.
Absolument, des tessitures très aiguës, très graves. Absolument, mais oui, vous êtes très 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 bien informée, effectivement. C'est à Youn que j'avais proposé au départ, mais évidemment Youn était déjà très 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 loin. Et parce que Youn, on se connaît depuis de nombreuses années, de l'époque où elle habitait à Paris, quand moi j'étais au Conservatoire de Paris. Mais effectivement, Isabelle, j'ai mis du temps à aller la chercher en Scandinavie, en Suède. Et dès lors que je l'ai rencontrée à Paris et qu'elle m'a dit oui, je me dis, c'est parti, on va répéter. Et la première répétition a eu lieu en janvier 2014. Et je trouve que les premiers instants, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, les premiers instants de musique quand on découvre ensemble, je sais pas, peut-être un livre ou là une partition. En fait, j'ai voulu immortaliser ces instants et la toute première répétition, je l'ai enregistrée. En fait. Et elle est devenue une démo. Et à la fin de cette journée de répétition, je crois qu'on s'est dit, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Effectivement, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se construire. Et par la suite, on a enregistré l'album assez rapidement, sans avoir fait beaucoup de concerts finalement. Mais après l'album qui est sorti en 2016, on a eu beaucoup de concerts. On a joué beaucoup en France, en Europe, en Asie aussi. Et à chaque fois avec un... En fait, tous les soirs, quand on rentre sur scène avec cette formation-là, c'est nouveau. C'est-à-dire que on joue le même répertoire, parce qu'on avait vraiment joué la même setlist, qu'on appelle la succession de morceaux, qui est quasiment la même. Mais avec eux, c'est tout le temps nouveau, c'est tout le temps neuf, parce que tout à l'heure, on parlait d'écoute, c'est ça. C'est-à-dire qu'on s'écoute constamment. En plus, sur scène, on est en arc de cercle. C'est-à-dire que moi, je veux pas être particulièrement devant ou quelqu'un d'autre. Le plus important, c'est qu'on se voit et qu'on s'écoute. Et dès qu'il y en a un qui prend une direction, bah, l'autre va la suivre, ou au contraire, va proposer autre chose. Et puis donc, c'est vraiment un jeu, et c'est un réel jeu de l'instant, de ce qui se passe. C'est très organique, il y a de la matière sonore, et oh là, je suis un peu allée loin, là, dans tout
non,
ce que
non,
je vous
mais
raconte.
C'est absolument passionnant, parce qu'effectivement, la voix et la trompette se marient formidablement, ce qui au départ, pour les béotiens que nous sommes, n'est pas évident, Hérel Besson. Et là, effectivement, ça donne un du duo de voix, en fait.
Oui, un duo, à la fois de voix ou un duo d'instruments. Mais c'est exactement ce que vous décriviez, c'est-à-dire qu'à la fin des concerts, on dit, mais des fois, on ne sait plus qui est qui joue quoi. Et moi, j'adore ça. C'est ça que j'adore. Et Isabelle, à la fois, c'est très onirique, c'est très aérien, mais elle est bestiale. Et elle vit à 800% la musique sur scène, vous l'avez. C'est quelqu'un de enfin, que j'adore, évidemment. Et donc, les mélopées, les mélodies, elles se passent entre nous deux et avec Benjamin Mousset aussi.
Mais d'ailleurs, R.L. Besson, cette notion de voix en jazz, on sait qu'elle est très importante. Je vais vous faire écouter une archive, c'est la voix de Keith Jarrett, qui parle justement de ce que c'est que pour lui trouver une voix.
C'est un sujet ardu parce que si la musique n'est pas mélodie, qu'est-ce qu'elle est ? C'est une question essentielle. En tout cas, ce ne sont pas les harmonies qui se suivent. Parce que ça, c'est vertical, ça monte et ça descend en faisant bang, bang, bang. Ce n'est pas ça qui fait la musique. La voix, c'est mon idéal quand je joue du piano. Et si la voix est mon idéal, la mélodie a plus de chances d'être au rendez-vous.
Thank you.
Sound of Your Voice, c'est la partie 3, puisqu'il y a trois parties dans cette composition, R.L. Besson, que vous signez, bien sûr. Et je vais dire une grosse bêtise, mais on sent... vous êtes bien sûr sorti du Conservatoire National, donc la musique classique, vous connaissez, mais ça fait penser... Alors, c'est du jazz, mais pas que ça. C'est du classique, évidemment, bien d'autres choses. J'allais dire, c'est presque une composition symphonique et vous êtes quatre sur scène.
Waouh! Wow,
c'est trois. The Sound of Your Voice, c'est quelque chose que vous n'avez pas créé pour cet album. C'est quelque chose qui existe dans vos concerts depuis 2017. Mm-hmm. Mais en l'écoutant, on a l'impression que là, vous êtes en train de le créer à ce moment-là, moment de la prise de son.
Absolument, comme si c'était la première fois. D'ailleurs, c'est pour moi quand on a dû l'enregistrer, je ne sais pas, un jeudi matin à 11h, je me dis, on y va, c'est parti. C'est comme si c'était complètement vierge, une étendue de neige, complètement, et allons-y. On met ce qu'on veut dedans. Et effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, à un moment, il y a un petit moment en suspension, là, on ne sait pas ce qui se passe. Je pensais qu'Isabelle allait refaire une thématique, une mélodie. Elle me dit, ah bah non, en fait, bah alors je vais prendre la trompette. Donc il y a un petit moment en suspens. Et en même temps, c'est l'improvisation, le jazz, c'est vrai que c'est ça. Après, vous parlez de musique classique et symphonique. Effectivement, la musique classique n'a jamais été très loin de moi, étant donné que le violon est mon deuxième instrument. Je l'ai pratiqué beaucoup au violon, à l'orchestre, dans des quatuors. Et il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, je suis retournée à l'école, on va dire au conservatoire, pour faire une formation de direction d'orchestre, non pas pour devenir chef d'orchestre, mais pour mes connaissances, mes connaissances personnelles. Et c'est ce qui m'a permis de composer pour des orchestres symphoniques, que maintenant j'ai des commandes comme ça d'orchestre. Et finalement, que ce soit... Je fais des signes quand je regarde mon conducteur avec, je sais pas, 50 portées, ou qu'on soit 4, finalement, on parle de musique. Finalement, c'est pas que ce soit exactement la même chose, mais si, presque. Et si vous me permettez, je voulais faire une toute petite parenthèse, que ce soir, je crois que j'ai vraiment beaucoup de cadeaux, c'est très précieux. Tout à l'heure, on a écouté la voix de Keith Jarrett. S'il y a un musicien de jazz que j'ai écouté, c'est lui. Et je ne connaissais pas du tout cet extrait de l'archive de Nina. Vous dites, il faut que j'aille écouter ce qu'il dit. Et ça m'a fait du baume au cœur.
Oui, le Louis Clavis, Keith Jarrett, bien sûr. Mais est-ce que, par exemple, la voix de celui-là vous dit quelque chose?
Mon nom est Chet Baker. Je suis né dans Yale, Oklahoma, en 1929. Mon père jouait aussi le jazz. Mais il n'a jamais connu succès. On dit qu'il aimait trop buver et fumer la marijuana. La première fois que je suis arrêté pour les drogues, c'était à Harlem. Et ça, c'était le commencement d'un terrible cauchemar pour moi qui m'a chassé à travers le monde. Je sais très bien qu'il y a eu beaucoup d'artistes, surtout des artistes jazz, qui sont morts à cause des drogues. Par exemple, il y a eu Billie Holiday. Vous savez ce qu'on dit en argot américain pour un drogué? On dit qu'il a un singe sur son dos, a monkey on his back. Eh bien, moi je vous dis que moi je n'ai pas honte de ça. Et aussi, je n'ai pas peur de mourir jeune, si c'est pour le jazz. Et je ne sais pas combien de temps je vais être ici en France, mais une chose est sûre, c'est que j'espère qu'on entendra mon trompette jusqu'à le dernier jour.
Oh, et c'est vraiment ce qui s'est passé. On l'a entendu, sa trompette, jusqu'à son dernier jour. Chet Baker, bien sûr, dans son français...
Impeccable.
Il a vécu longtemps en France. Et en fait, c'est vrai que lorsqu'on songe aux joueurs de trompette, aux trompettistes, ce sont essentiellement des hommes, R.L. Besson. Et donc, si je vous demande qui, alors bien sûr, Miles Davis, Chet Baker, qui est-ce que vous aimez dans les trompettistes?
C'est une grande question. Parce que j'écoute des trompettistes, mais pas énormément, finalement. Bizarrement, étonnamment. C'est pas l'instrument que je vais écouter le plus et depuis tout le temps, depuis toujours. Sauf évidemment pendant les études où on nous demandait d'écouter un tel et tel. Et je pense que le musicien en général que j'ai écouté le plus, c'est bien Keith Jarrett en jazz. Après, s'il y avait un trompettiste que j'ai suivi et dont j'ai relevé les solos, comme on dit un peu dans notre jargon en jazz, c'est Tom Harrell, le trompettiste américain que j'ai eu la chance de rencontrer et même avec qui j'ai eu l'immense honneur de partager la scène pour un Trumpet Summit il y a quelques années. Et un autre musicien, mais là j'ai plus son nom, c'est Avishai Cohen.
Ah, Avishai Cohen.
Oui, c'est ça, oui, ouais. Parce que j'avais lu le contrebassiste, je me dis, non, c'est bien ça. Ils ont le même. Oui, voilà, et lui, j'ai vraiment envie d'écouter un plus.
Alors, on ne va pas faire la question une femme, une trompette. Moi, j'ai envie de vous poser la question. Et la douleur physique quand on joue de la trompette. Parce que j'avais été toujours très étonnée d'entendre les pianistes, par exemple, me parler de leurs problèmes de dos, enfin, de mains, d'épaules. Comment ça se passe pour une femme à la trompette? Est-ce que il faut faire en fait un entraînement physique comme un sportif de haut niveau?
Moi, je c'est comme ça que je l'entends parce que j'aime pouvoir maîtriser au maximum tout ce que je peux à la trompette. Et effectivement, je fais un entraînement physique avant d'emboucher ma trompette pour la sangle abdominale, pour le diaphragme, pour la colonne d'air, pour se muscler. Et effectivement, c'est une pratique quotidienne, c'est assez... Oui, c'est une discipline. Et la trompette, c'est vrai que quand on la travaille, il faut être très, très régulier. Et comme ça, il y a un moment qui me revient, parce qu'il n'y a pas très longtemps, c'est il y a un an et deux ans, ma fille venait juste de naître et j'avais dû m'absenter pendant un an, parce que je n'avais pas pu pratiquer, c'était un peu compliqué. Et c'était la première fois de ma vie, en fait, que j'arrêtais un an, en plus un peu forcée, je n'ai pas vraiment eu le choix.
La reprise a dû être terrible.
Et la reprise était terrible, c'est-à-dire que je ne savais plus comment faire pour reprendre. Et comme vous le dites, si justement il faut faire tellement attention, surtout à ce muscle de la lèvre qui est tellement fragile, il faut vraiment pas le brusquer d'un coup. J'ai rappelé un ancien professeur, mon professeur de trompette classique, monsieur Pierre Gélé, que je remercie infiniment. Et en fait, j'avais un mois et demi après, concert à la Philharmonie de Paris avec le quartet. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu penses que je serais prête dans un mois et demi en n'ayant pas joué pendant un an? Mais écoute, je peux pas te dire, c'est très difficile à dire. Par contre, t'as trop joué dans ta vie pour que ce soit parti. Et en fait, pendant 3 semaines, j'ai fait du fractionné 10 fois par jour que avec l'embouchure. L'embouchure, c'est le petit embout qu'on appelle qui va dans la trompette. J'ai fait que ça. Et j'étais vraiment très méticuleuse. Évidemment, je voulais rejouer. Et il a fallu que je fasse ça. Alors, sur le papier, quand il me disait 10 fois par jour, je le notais. Et en vrai, une jeune maman, 10 fois par jour qui allait, c'est très compliqué. J'arrivais difficilement à 5-6. Bon, ça, c'est des... En tous les cas, pour vous dire que oui, c'est moi, je le prends comme ça, en tout cas, oui. Il faut faire très attention à ce muscle des lèvres. Et moi, c'est effectivement une activité sportive et être en bonne condition physique, un peu comme un chanteur lyrique. Un chanteur, il a son instrument, la voix, et il faut faire attention. C'est fragile.
Retour à l'album pour montrer que tout est bien revenu. Ce titre-là, c'est La plage 10 après la neige. Ah. Thank you. n'a pas envie que ça s'arrête. Après la neige, Erhel Besson, c'est un petit clin d'œil à votre ami le guitariste Nelson Verras, que vous, avec lequel vous aviez enregistré Neige.
Absolument.
Donc après la neige.
Après la neige, voilà, parce que lors d'une ou plusieurs écoutes, quelques amis m'ont dit, en écoutant le tout début, ils m'ont regardé et me dit « Mais c'est Neige ?» C'est le Norvège. Ben non, pas du tout. C'est un autre morceau qui avait un autre titre. Et je me suis dit, il faudrait peut-être lui donner un titre en correspondance à Neige. Donc, c'est pour ça qu'il s'appelle Après la Neige.
Erhel Besson, vous êtes devenue, je le disais au début de l'émission, donc maintenant productrice.
Oui.
Vous avez fondé votre label Papillon Jaune. Qu'est-ce que ça change matériellement d'être productrice?
C'est beaucoup de travail en plus. C'est un travail qu'on découvre. C'est-à-dire que mes précédents albums, ils avaient été faits chez le label Naïve. Et là, effectivement, c'est très différent parce que c'est soi-même qui s'occupe. Je m'occupe de tout. En fait, on doit tout gérer du début à la fin et encore maintenant après la sortie de l'album. Mais c'est justement ça qui est aussi intéressant. Ça prend évidemment beaucoup de temps, mais c'est ça qui est intéressant. C'est quand même d'avoir la liberté de choisir exactement, spécifiquement les personnes avec qui on travaille, que ce soit le graphiste, le photographe, l'ingénieur du son, évidemment, enfin, à tous les niveaux. Et c'est assez instructif et j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui se fait peut-être de plus en plus, les productions d'être artiste producteur. Aussi, ça permet d'avoir des aides de plusieurs sociétés qui nous aident et ça, c'est un plus forcément. Donc, mais c'est surtout beaucoup de travail.
J'imagine. Alors, évidemment, d'habitude, lorsque les artistes sortent un album, il y a toute une série de concerts qui s'enchaînent derrière pour faire entendre au public, en salle, en vrai, en chair et en os. Bon, en attendant, on peut déjà écouter cet album, Try, dont on a écouté déjà 4 extraits. On vous souhaite, évidemment, de reprendre très vite le chemin des salles.
Oui.
Et on sera au rendez-vous, bien sûr.
Ah bah, avec grand plaisir, nous aussi. On a très envie de présenter ce nouveau répertoire à tous et vivement que ça vienne. Ça va prendre du temps peut-être, mais en tous les cas...
Alors on va se quitter pour une fois, on n'aura pas le générique final de l'émission, on va se quitter avec vous, Erhel Besson, ce magnifique solo de trompette qui ouvre The Sound of Your Voice, part 1 cette fois-ci, plage 1 de ce disque. C'était un vrai plaisir de parler avec vous ce soir, Erhel Besson. On vous souhaite le meilleur pour reprendre vite le chemin des salles de concert.
Merci à vous, Kathleen Evin. C'est un grand... C'est très émouvant d'être avec vous.
Au revoir.
Au revoir.
L'humeur vagabonde s'en va sur la pointe des pieds pour ne pas troubler votre écoute, mais n'oubliez pas qu'à 21h, vous avez rendez-vous avec Xavier Le Herpeur pour une heure en série. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter.